aucune idée de ce qui va se passer.
긴급 속보입니다. 현재 프랑스 파리에서 아주 특별한 이벤트가 일어나고 있습니다.
에반, 얌전히 좀 있어.
Je suis en direct des Champs-Élysées où la.
귀여워, 언니 봐. Vite!
Maman, arrêtez de lire, tâchez,
voyons. Il revient!
Bonjour à tous et bienvenue sur istasia.fr pour notre podcast numéro 18 avec ce soir Jérémy. Salut Jérémy.
Salut.
Justin. Salut Justin.
Salut.
Nicolas. Hello Nicolas.
Salut.
Marc.
Salut.
Salut Marc. Et Yannick en direct de Skype et de Belgique. Salut Yannick.
Salut.
Nous allons parler des Tortues Ninja, de Toninja, de cinéma, mais avant tous ces sujets ont A comme Istasia. Nous allons commencer par un détour par le cinéma coréen, puisque c'est tenu à Paris en octobre, le FFCP, le Festival du film coréen à Paris. Marc, Nicolas, vous y étiez. Quels sont vos sentiments sur l'édition 2014?
Eh ben, Nicolas. Comment dire? Alors, en 2013, on avait eu une énorme claque avec le film Hope. Donc cette année, malheureusement, il n'y a pas eu de grosses claques, de vrais grands films qui se démarquent. Par contre, le niveau général était plutôt bon, c'est-à-dire qu'on a eu pas mal de bons films ou de films assez passables. Donc on a quand même passé un bon festival, je pense que tu es d'accord, Marc.
Oui, c'était plutôt assez intéressant. Il y avait quand même moins de films d'action et de comédie que l'an passé. Et donc il y avait beaucoup de drames, de films assez durs. Sur des vengeances, des viols, etc. Donc, bonne ambiance dans la salle. Mais c'est vrai que le niveau était plutôt bon. Ceci dit, il y a eu quelques comédies. Hard Day, notamment, qui est un polar vraiment très très bien, à la fois drôle et haletant, et qui sort en janvier en France. Et franchement, c'est vraiment une très bonne chose, puisque c'était vraiment une bonne surprise. Et je pense que le film a eu assez de succès parmi les spectateurs.
Il était aussi à Cannes, à la quinzaine des réalisateurs, donc c'est vrai qu'il a eu déjà un petit coup de projo à ce moment-là.
Oui,
il était à l'étrange aussi.
Et à l'étrange festival, donc il tourne pas mal avant de sortir en salle, et je confirme que c'est une...
Qui a été repoussé d'ailleurs en janvier 2015, alors qu'à la base il devait sortir en novembre, je crois. Bon, j'espère que justement ils auront choisi une bonne date pour que ça marche, quoi. Mm-hmm. Parce que ça mérite.
Et on peut noter aussi le film qui a battu tous les records au box-office, Roaring Currents. Donc, qui est sorti aux États-Unis sous le titre de L'Amiral, qui est donc une fresque historique qui parle d'une bataille navale qui a eu lieu à la fin du XVIe siècle. Donc c'est un film à grand spectacle.
Avec Choi Min-sik.
Tout à fait, avec Choi Min-sik. Et c'est réalisé par celui qui avait fait The War of the Arrows, qui était sorti il y a 2-3 ans, qui était plutôt pas mal. Et Roaring Currents, c'est aussi une fresque historique qui en met plein les yeux avec pas mal d'effets spéciaux, surtout pour les périodes de la bataille navale qui dure à peu près 50 minutes, 1 heure. Et le film est assez divertissant, mais c'est quand même peu subtil, c'est le moins qu'on puisse dire, puisque en gros, ça parle des bons Coréens qui sont brimés par les méchants japonais qui coupent des têtes et qui coupent des nez. Et du coup, les Japonais sont vus comme d'horribles barbares et les Coréens comme des pauvres victimes qui, grâce à leur héroïsme, réussissent à battre les Japonais alors qu'ils sont en infériorité numérique. Donc il y a un petit côté David et Goliath avec un petit parfum nationaliste assez drôle, vu du moins d'un point de vue d'un occidental.
Nicolas, tu t'en perds
un peu.
Mais
il y avait déjà ça dans War of the Hero, d'ailleurs.
Mais là, c'est encore...
Mais là, c'est plus marqué parce que c'est vraiment une guerre, quoi. Moi, je tempère un peu parce que, ok, le côté japonais est vu, c'est très caricatural, c'est vraiment des méchants horribles, pas beaux, mais le côté au coréen est beaucoup plus nuancé, c'est pas forcément que des gentils, il y a aussi pas mal de trahisons, de rebondissements, ils sont pas tous derrière le général, enfin l'amiral principal.
Oui, donc il y a 75% de méchants, et
c'est à peu près ça, non, mais je veux dire, pendant toute la première partie, la préparation du combat, la tactique et tout ça, il y a des tensions et tout, donc c'est. On voit qu'il y avait quand même déjà, enfin je sais pas si c'était vraiment comme ça se passait à l'époque, mais il y avait des grosses tensions au niveau des communautés.
De toute façon, dans le cinéma coréen, on retrouve beaucoup dans le cinéma grand spectacle coréen, on retrouve beaucoup de ce manichéisme. Je pense à, c'était Far Away, je crois, où il y avait ce...
Voilà, sauf que c'était nul Far Away quand même.
C'était pas bon.
Sauf que Roaring Currents, pour le coup, la deuxième partie qui est vraiment concentrée sur la bataille, le réalisateur donc, qui avait fait War of Zero, qui était déjà très très, qui avait déjà une partie survival qui était excellente,
un sens du spectaculaire,
et un sens du spectaculaire, ouais, du rythme et du cadrage, de la gestion d'espace qui était assez impressionnant. Et là, il s'en donne à cœur joie, c'est vraiment spectaculaire. Alors que le budget n'est pas si élevé que ça, et je trouve qu'il s'en sort pas mal. C'est une vraie bataille navale avec des boulets de canon dans tous les sens, ça explose, et des coups tactiques et tout. Et c'est vraiment
ça,
passionnant.
Ça dure une heure comme ça.
Ça dure une heure, mais okay. C'est vraiment passionnant quoi.
Il ne faut pas être épileptique ou.
Non, même pas, c'est super.
C'est bien filmé.
C'est bien filmé, ouais, et tout. Il y a nécessairement un pur plan séquence qui fait tout le tour du grand bateau général, du gros bateau, qui filme tous les soldats en train de se battre sur le bateau, comme ça. Ça fait tout le tour du bateau. Ah, ouais, c'est impressionnant. Quoi.
Pour revenir un peu sur les autres films et les films en sélection, on avait l'impression qu'il y avait trois types de films cette année. D'un côté, le jeune cinéma d'auteur avec A Cappella, A Girl at My Door, des films qui sortent en salle. De l'autre côté, les grosses machines avec Roaring Currents, comme vous l'avez dit. Et enfin, les films de genre, Hardy, Terror Live.
Intruders.
Est-ce que vous avez eu l'impression de cette compartimentation du cinéma coréen lors du festival?
Oui et non. C'est-à-dire que... on va dire que l'ordre dans lequel j'ai vu les films était assez important à ce niveau-là, parce que ça permettait toujours de varier de l'un à l'autre, donc j'ai pas vraiment forcément j'ai vraiment surtout ressenti une plongée dans le cinéma coréen assez général, pas forcément une compartimentation entre les différents genres, mais sinon tu revenais, ouais, donc moi je trouve qu'il y avait des films dans tous les genres, il y avait des films de qualité. Donc je parlais de Terror Live, qui est aussi un peu mon coup de cœur de ce festival là qui est une espèce d'épisode de 24 heures chrono en huis clos, où le rythme ne retombe jamais pendant presque 2 heures, avec un sens du découpage du rythme assez impressionnant. Donc du coup, c'est un vrai spectacle, alors qu'on reste dans une seule pièce pendant quasiment tout le film, et on a vraiment un vrai spectacle haletant, où on est accroché à notre pièce pendant 2 heures, quoi. Donc je vous conseille.
C'est fatigant ce festival en fait, les films.
Ah bah, il y a de tout en fait, ouais. Il y a des films qui sont super rythmés, il y a des films aussi qui sont assez calmes. Il y a des films qui font peur.
Donc
des...
c'est un bon panorama. En fait.
Ouais, voilà, c'est un bon panorama. Quoi. C'est pas vraiment inscrit seulement dans un type de cinéma.
Il y a eu des années où c'était quand même très, très autoriste et très, voilà. Très plombant, en fait.
Ah, tu vois, il y a eu Intruders, qui est donc un vrai film de genre, qui est une espèce de dommage au film de Redneck, tout en détournant les codes du film de Redneck. Donc ça, c'est assez intéressant. Il y avait eu 10 Minutes aussi, qui est un film de fin d'études, qui a été fait il y a deux ans.
Il était au FICA de
Le Zoul, oui.
Ouais, qui, je ne sais pas si vous avez aimé, moi j'ai beaucoup aimé, parce que ça parle des perversités que peuvent subir les jeunes employés dans les entreprises, où au début on a l'impression que ça se passe bien, puis au fur et à mesure, il y a une espèce de harcèlement un peu qui s'immisce comme ça, et qui est vraiment insupportable. Et donc là, c'est vraiment intéressant à ce niveau-là. Surtout que c'est un film de fin d'études. On a l'impression que c'est un vrai premier film professionnel. Donc c'est vraiment très, très bien. Et qu'est-ce qu'on avait comme d'autres bons films
Justement, si Marc, tu dois retenir un film, un coup de cœur du festival, hein, que ça serait...
À part Hard Day, que j'ai vraiment aimé, je pense que je parlerai de Broken, qui était un film assez intéressant. Et sur un sujet qui, au départ, était un petit peu casse-gueule, parce que ça parle d'un type, un employé dans une usine qui a une vie un peu pas cool, et sa fille, qui doit avoir 14 ans, 15 ans maxi, se fait violer et tuer par des ados. Et, donc, du coup, le père décide de se faire vengeance, justice lui-même, et il part à la recherche des coupables, qui sont des ados également. Et du coup, c'est vraiment une sorte de descente dans les bas-fonds de la société sud-coréenne, mais pas si bas-fonds que ça, parce qu'en gros, on voit que c'est vraiment poreux entre les bas-fonds et la bonne société, et que, enfin, c'est une image très peu reluisante de la jeunesse sud-coréenne et même de la société sud-coréenne en général. Et le film dure 2 heures, et au bout d'une heure, on se dit que la fin va être proche et que le réalisateur va avoir du mal à tenir son rythme. Et finalement, le film reste suffisamment intéressant jusqu'au bout, jusqu'à la dernière séquence. Et ce qui est une assez bonne prouesse pour un sujet aussi quand même éculé que les viols et vengeances, quoi. Et donc, Broken, ouais, c'était un film vraiment pas mal qui restera, je pense, dans la programmation du festival.
Nicolas, si tu dois retenir un film ou un événement de l'édition 2014 du FFCP.
Bah, mis à part Terror Live, un autre film que j'ai beaucoup aimé, c'était... j'avais beaucoup aimé Broken aussi. Night Flight aussi, qui parle de... donc qui se passe dans un lycée, où il y a deux jeunes étudiants qui tombent un peu amoureux de l'un de l'autre, mais c'est une relation un peu « je t'aime, moi non plus », qui s'installe pendant tout le film. Donc on a deux superbes acteurs qui sont plongés au milieu des mœurs de la jeunesse de l'époque, en fait, où l'homosexualité est encore très mal vue dans le milieu scolaire. Et donc il y a toute une réflexion là-dessus qui est vraiment très intéressante. Et puis le film est vraiment esthétiquement très réussi. Et puis les deux acteurs, comme je l'ai dit, sont assez formidables. Donc c'est aussi un très bon film. C'est vraiment, on a pas mal de bons films aussi. On a une belle comédie aussi. C'était My Dear Girl, Jenny Young. Excusez-moi pour la prononciation.
Heureusement que tu ne l'es pas encore.
Donc il n'y avait pas eu beaucoup de comédies pendant le festival, mais celle-là était vraiment réussie parce que ça parle de la... C'est encore un film, on va dire, sur la crise de la trentaine. Mais là, ça parle de la crise de la trentaine du point de vue d'une scénariste un peu ratée qui essaie d'écrire des films de zombies, mais elle n'arrive pas à être produite et tout. Et puis lui encore, c'est sa sœur. Et elle rate tout ce qu'elle fait un peu, donc c'est vraiment intéressant. Puis c'est très drôle, il y a toujours un décalage permanent. Et c'est émouvant aussi parce qu'il y a toute une histoire familiale derrière qui est très intéressante. Et je voulais aussi revenir sur les déceptions un peu de ce style. C'était malheureusement le film d'ouverture AMO.
C'est toujours bien de finir sur une note négative.
Non, bon, on reviendra sur un truc positif après, mais c'est vrai qu'il fallait en parler quand même d'AMO parce que c'est quand même un film qui a été produit et coécrit par Bong Joon-ho, donc qui a été écrit. C'est le premier vrai film de Shin Sung-bo. Donc c'était vraiment le film quasiment le plus attendu du festival. Et c'est une vraie déception parce que sans que ce soit un mauvais film, je trouve qu'il rate son mélange des genres en fait dans la deuxième partie. Ça verse dans la grandiloquence, dans le grand guignol, ça en rajoute 10 fois trop, un peu trop, comme on a parfois l'habitude avec les Coréens, et malheureusement, même si c'est un film esthétiquement magnifique, la photographie est somptueuse, même si Kim Eun-seok est encore une fois monstrueux, dans tous les sens du terme, ce qui devient assez glauque comme personnage, mais c'est vraiment la déception du festival, quoi. Je m'attendais à beaucoup mieux, malheureusement.
Et puis, on pourra en reparler d'ailleurs parce qu'ils seront en salle, je crois, en mars prochain.
Ouais, 2015. Voilà.
Pour terminer sur le cinéma coréen, je voulais revenir sur deux films que tout le monde en France a la chance de voir au mois de mars. En commençant par A Girl at My Door de Julie Young, qui est sorti d'ailleurs le 5 novembre. Vous l'avez vu ? Vous en avez pensé quoi ?
Moi, j'avais été mi-figue, mi-raisin. C'est-à-dire que.
Je peux dire de quoi ça parle.
Donc ça parle d'une commissaire, enfin d'une inspectrice de police qui est après un drame, donc on ne connaît pas vraiment l'origine, est mutée. Enfin c'est pas vraiment un drame en fait, c'est je vais pas revenir dessus, mais donc en gros elle est mutée dans un village alors qu'elle vient de Séoul et donc elle se frotte à la population locale forcément. Et elle se retrouve à héberger une petite fille en fait qui se fait battre par le père alcoolique du coin. Et donc comme
c'est sympa, la Corée,
du fait de son origine sexuelle en fait entre guillemets,
c'est la réalité,
ça parle encore donc de sexualité voilà, donc il y a toutes les questions morales qui se posent encore avec la société qui est encore très conservatrice dans ces zones là. Et il y a toute une ambiguïté qui s'installe par rapport à la relation entre elle et la fille, vue par les autres personnages, qui vont forcément grossir ce qui se passe réellement. Et donc c'est intéressant à ce niveau-là. Par contre, je trouve que la mise en scène est un peu plate, académique, donc elle ne porte pas vraiment le film, quoi. C'est vraiment du scénario filmé, et c'est dommage.
C'est un premier film donc qu'on peut voir en salle. Hein. Et l'autre film qui sort par contre, lui, le 19 novembre, c'est A Cappella de Lee Soo-jin, qui est aussi un premier film qui a été récompensé à Marrakech et à Deauville. On en a déjà parlé, mais peut-être qu'on peut y revenir alors qu'il s'apprête à conquérir les salles françaises. Marc, tu avais écrit une petite preview dessus.
Oui, tout à fait. Ben, toujours un film aussi réjouissant, puisque ça parle de viol, une fois de plus. Et effectivement, c'est un premier film, et un bon premier film, avec une mise en scène qui est assez bien, puisque au début, on s'attend à voir une sorte de viol et vengeance classique. Et finalement, le film se détourne de ce schéma narratif assez classique pour finalement être beaucoup plus psychologisant et surtout parler de la reconstruction de la fille qui a été violée et de sa nouvelle vie. Et finalement, de savoir si elle va réussir à exorciser ses démons. Et ça parle également de la vision des autres personnes de la société par rapport à cette fille qui a été violée. Est-ce qu'elle va être montrée du doigt? Est-ce que les gens vont au contraire être sympathiques avec elle et compatissants? Et du coup, le film parle beaucoup plus de reconstruction que de destruction. Et c'est un film que j'encourage à aller voir, surtout que comme c'est un premier film, on peut s'attendre à de bonnes choses de la part de Lee Soo-jin.
Oui, Nicolas, tu veux rajouter quelque chose sur le
film? On avait déjà beaucoup parlé à Deauville, lors du podcast qu'on avait fait à Deauville. Voilà. Bon, moi j'avais bien aimé, sans non plus trouver ça exceptionnel, c'est-à-dire que ça reprend toujours, c'est pas très original, ça reprend toujours les mêmes structures qu'on retrouve dans ce genre de film dans le cinéma coréen, c'est-à-dire que les flashbacks, on sait pas trop pourquoi elle a un problème, on va le découvrir au fur et à mesure, les secrets qui vont se révéler au fur et à mesure, donc puis tout le milieu lycéen qui est toujours un peu montré la même manière. Après, c'est intéressant parce que les personnages sont intéressants, l'écriture est réussie, plutôt bien mis en scène.
Deux ou trois comme ça, quoi, sur le même mode.
Ouais, bah, il y a eu Sun Yang, il y avait eu. La frappe n'était pas à Deauville, mais c'était le même style.
C'est le même mode. Ouais.
Voilà, donc il y en a beaucoup comme ça, mais.
Mais après, justement, je trouve que dans l'Acapella, la structure est assez. J'en parle dans ma critique que vous pouvez voir à côté. Il y a une interview du réalisateur qui parle aussi de cette structure en flashback, hein, et assez justifiée par le parcours du personnage. C'est-à-dire qu'on ne la présente pas comme une victime tout de suite. On différent justement le drame et le viol qui est montré assez frontalement. Et ça, c'est plutôt intelligent. Enfin, ça permet de construire un personnage qui n'est pas uniforme dans sa victimisation.
Mais c'est à chaque fois justifié, en fait.
D'autres passages.
C'est à chaque fois justifié dans les autres films, ouais. Mais c'est pas original. Quoi.
Mais la question est quand est-ce qu'ils vont nous faire un vrai bon rap et revenge, mais un vrai à l'ancienne, quoi.
Bah, c'était
pas la bonne revanche.
C'était pas vraiment un rap et revenge. T'avais Broken, il en a parlé, c'est exactement ça. Enfin, pour le coup, tu devrais le voir, parce que là, tu vas kiffer ta race. Ça défouraille un peu. Et non, j'avais parlé de Hope, là, qui était au FFCP 2013. Donc là, c'est pas le viol d'une étudiante, c'est le viol carrément d'une petite fille, et qui est un peu dans cette lignée d'a cappella, c'est-à-dire que c'est une reconstruction plutôt qu'une destruction.
Corée, un si beau pays.
Oui, non, mais c'est ça.
Et c'était vraiment le gros chef-d'œuvre ultime sur ce sujet-là. Et c'est dommage parce qu'il n'est pas sorti et on ne sait pas s'il sortira un jour en France.
Ça semble un peu tard maintenant. C'est vrai que c'est un sujet qui semble récurrent dans le cinéma et qui interroge beaucoup de jeunes cinéastes.
Il y a eu Silence aussi.
En tout cas, c'est beaucoup de premiers films qui parlent du viol. Fait. Et effectivement, il y en a au moins, je ne sais pas, 5-6 par an.
Bah, Silence avait une portée politique carrément au pays puisqu'il avait changé la loi grâce au film par rapport à la condamnation des... Des violeurs.
Des viols sur des enfants sourds-muets,
c'est ça.
Qui est tiré d'une histoire vraie, évidemment.
Voilà, et oui, et du coup, ceux qui avaient été condamnés, ils n'avaient pas été condamnés à perpétuité, ils n'avaient presque rien eu, et du coup, ils ont revu la loi, ils ont été condamnés à perpétuité, si je ne me trompe pas. Donc, la preuve qu'un film peut déjà parfois avoir un impact sur la réalité, et dans le bon sens, quoi.
C'est un film très lacrymal.
Oui, c'est un peu. C'est grave, hein. C'est là où on voit toutes les vices de la société coréenne.
Alors pour rappel, le FFCP s'est tenu en octobre à Paris. Il y aura une nouvelle édition en octobre prochain. Vous pouvez voir A Girl at My Door de Julie Young depuis le 5 novembre et A Cappella de Lee Soo-jin à partir du 19 novembre partout en France. Nous souhaitons également dans cette émission rendre un petit hommage avec un petit peu de retard puisque c'est le 20 juillet dernier que Panarity Cry nous a quittés. Yannick, est-ce que tu peux nous dire qui était ce monsieur et pourquoi il était important pour le cinéma asiatique et thaïlandais?
C'est un acteur, chorégraphe, réalisateur donc de cinéma d'action. Alors on le connaît chez nous surtout pour s'être occupé des scènes d'action de Hong Bak ou de L'Honneur du Dragon et 1 et 2. Mais il a aussi réalisé Born to Fight, qui avait quand même pas mal marqué le cinéma français. Et plus récemment, Bangkok Knockout, qui est sorti chez nous sous le nom de Knockout Ultimate Experience.
Il faut toujours des Ultimates dans les titres, j'arrête pas de le dire.
Oui, Ultimate, c'est important.
Jean-Claude Van Damme.
Voilà, ça, lui, il fait du cinéma depuis, depuis très très longtemps, mais c'est vrai qu'on l'a, on l'a découvert quand même assez sur le tard. Mais bah, il nous a permis de découvrir un cinéma d'action quand même particulièrement violent, particulièrement intense, avec des chorégraphies souvent, souvent complètement folles, quoi. Quand on, quand on prend la, la séquence de début de Born to Fight, avec les cascadeurs quasi suicidaires qui tombent entre deux camions qui roulent, c'est quand même des séquences qu'on a du mal à oublier, quoi.
Et enfin, ça tombe plutôt bien au hasard du calendrier. Il y a L'honneur du dragon 2, donc avec Tony Jaa, qui vient de sortir en, en vidéo. Et tu voulais nous en dire quelques mots?
Alors effectivement, j'avais eu la chance de le voir au BIF, et donc il sort, grâce à Metropolitan, il sort en, en Blu-ray depuis le 1er octobre. Alors Metropolitan a la, eu l'intelligence de le sortir en Blu-ray 3D, puisque le film a donc été tourné entièrement en 3D. Et on se retrouve avec... ceux qui ont vu L'honneur du dragon ne seront pas, pas dépaysés, puisqu'on a un scénario quasiment identique, où Tony Jaa se fait faucher son éléphant et puis retourne péter la gueule aux méchants qui ont osé faire ça.
C'est le même éléphant que dans le premier, ou c'est un autre éléphant comme...
En fait, dans le premier, c'était deux éléphants, la mère et le bébé, sachant que le bébé était le, en fait le frère de Tony Jaa, spirituellement parlant, bien sûr. Et du coup, dans le 2, c'est le bébé éléphant qui a grandi.
D'accord, donc et c'est donc... bien la suite. Donc c'est...
Ah oui, totalement. Il est enlevé par RZA qui veut s'en servir des éléphants piégés pour détruire la paix dans le monde.
Waouh. Bah, j'imagine que le scénario n'est pas forcément le point fort du film.
Non, c'est pas le scénario, effectivement, mais on se retrouve avec des scènes d'action assez proches de ce qu'on avait vu dans le premier, avec entre autres les séquences de quad, etc. Mais... toujours plus. Je veux dire, là, des quads et des motos, il y en a genre une centaine.
Est-ce qu'il y a des quads sur des motos?
Ils s'enflamment les pieds pour se foutre sur la gueule. Enfin, c'est... Voilà, quoi. On garde complètement la folie de ce genre de scène, avec toujours ces cascadeurs qui tombent de haut, ces cascades hallucinantes, et cette fois-ci, avec pas mal d'objets qui volent en direction de l'écran, etc. Un grand moment de cinéma d'action que j'ai particulièrement apprécié.
Pour terminer, si tu devais conseiller à quelqu'un qui ne connaît pas du tout le cinéma d'action thaïlandais un film de Panaritic Rai, tu dirais de commencer par quoi?
Born to Fight.
Violent.
Oui, bah oui, mais si on veut découvrir Panaritic Rai, c'est quand même pas pour faire dans la dentelle. Et justement, ouais, là ça. Aussi, scénaristiquement, Born to Fight reste très léger, mais propose des séquences effarantes qu'il faut découvrir pour toute personne qui aime ce genre de cinéma.
Je me rappelle du mec qui se fait exploser au lance-roquettes sur son pont, là, sur le pont, soufflé par lance-roquettes.
C'est Chuck Norris qui m'y tirait ou...
Parce que la première séquence avec les têtes qui roulent, sont juste à côté des grosses roues du camion, ouais. c'était quand même assez...
Mais bon, c'est pas aussi violent que John Rambo.
C'est une boucherie, ça.
C'est vraiment la boucherie totale.
Bah, le truc avec John Rambo, c'est que John Rambo est un film gore, mais effectivement, Born to Fight, il y a des séquences où on se dit... il y avait quand même 2 chances sur 3 que le cascadeur il meurt, quoi. Effectivement, la scène du début où le mec tombe entre deux camions et la tête qui passe. Moi, j'avais lu des interviews où il disait qu'ils avaient failli enlever la scène là parce que chaque répétition, en fait, le cascadeur aurait dû mourir. Mais finalement, il y en a un qui s'est dévoué pour la tester quand même parce que le film avait été vendu pour cette scène là donc il fallait la laisser, quoi.
Donc 5 prises et 5 cascadeurs différents, quoi.
Ouais. C'est ça.
Mais on voit dans le générique de fin les répétitions et autres, où d'abord ils le font sur des caisses, ensuite sur des camions qui roulent pas, pour vraiment chorégraphier le truc au millimètre, quoi.
Mais sécuriser le...
c'est des conditions de tournage terrifiantes, quoi, en fait.
Nous allons maintenant parler donc d'un film peut-être plus traditionnel au niveau des effets spéciaux. Le moment que vous attendez tous, c'est le moment où nous allons parler de Ninja Turtles, les tortues ninja.
J'adore.
Donc qui est certainement en salle encore pour tout le mois de novembre et une petite partie du mois de décembre, puisque ça marche bien. Qui l'a vu et qui se dévoue pour, bon, peut-être pas raconter l'histoire parce qu'on la connaît tous, mais en tout cas dire ce que vous en avez pensé. Ouais. Justin ?
Oui, donc bah, c'est une espèce de relecture voilà, de la saga des Tortues Ninja. Alors c'est pas la meilleure, c'est pas la pire non plus, quoi. Bon, la pire restant le dessin animé des années 90, quoi. Puis la meilleure, c'est, je pense que c'était le dessin animé de 2007, là, en 3D.
Très bon,
c'était vraiment un vrai bon film, quoi. Et donc là, en fait, voilà, c'est une espèce de revisitation de l'histoire qu'on connaît. Donc, bon, c'est reste un gros blockbuster, voilà, avec des grosses scènes d'action numérique, mais il y a un petit capital sympathie, et les quatre tortues sont bien caractérisées. Au niveau du design, il y a une vraie refonte du look, quoi. Il y a un côté, on va dire, assez gros massif, massif. Vraiment massif, gangsta rap, vraiment avec les...
Ça m'a gêné un peu ce côté-là, un peu.
Bah, ça
ce
change.
Gangsta black, je trouve qu'ils sont très typés afro-américains, en fait.
Pas forcément dans les dialogues, dans le reste, mais c'est au niveau de l'allure, il y a un côté gangsta rap, un côté, une allure qui en impose.
Là, ils font
avec
du pop,
les armes, oui.
Ouais, d'accord, voilà, ouais.
Est-ce qui me
dérange?
Bah, ça change, c'est une nouvelle relecture. De toute façon, il y a toujours eu ce côté urbain, même dans les anciennes versions.
Carrément. Dans le 2, ils faisaient du rap aussi, hein.
Oui. Et donc voilà, c'est bon au niveau, c'est plus au niveau du capital sympathique, les personnages sont sympas. Après, c'est assez générique au niveau des grosses scènes d'action, même s'il y a un moment assez impressionnant où il y a une grosse poursuite, donc où il dévalue une montagne avec un semi-remorque. Donc ça reste assez impressionnant, mais bon, il y a des petits problèmes de cohérence aussi, que ce soit au niveau des origines des Tortues Ninja, donc j'en dis pas trop, je laisse la surprise, mais au niveau des origines, donc il y a un côté, une tendance qu'on retrouve vachement maintenant où faut tout lier, où tous les personnages sont liés à l'origine, donc April, O'Neill, on va découvrir qu'elle avait un lien intérieur aux Tortues Ninja
avant la chirurgie,
avant qu'elle mute en tortue intelligente, donc on va découvrir qu'il y avait un lien en amont, puis pareil, Shredder aussi a un lien en amont avec les tortues. Il y a un côté un peu avec des grosses ficelles au niveau du scénario.
Et pas vraiment Shredder, d'ailleurs.
Oui, d'ailleurs, enfin pas Shredder, mais bon, le personnage de William Fichtner, quoi, qui est associé à Shredder, enfin, d'une manière un peu grossière. D'ailleurs, Shredder n'est pas très intéressant dans le film, c'est vraiment le gros méchant, balourd.
Juste pour l'armure, quoi, sinon...
Ouais, enfin, l'armure, c'est un peu un ouvre-boîte, quoi.
C'est ça.
Mais, couteau suisse, quoi. Et puis, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Mais sinon, et puis, au niveau des origines aussi, donc au niveau de Splinter, bon, pareil, j'en dis pas plus, mais c'est assez grossier la manière dont c'est introduit l'élément des arts martiaux vis-à-vis des tortues. Donc, voilà. Et puis, le climax aussi, qui est assez bateau. Bah, après, bon, ça reste, il y a un capital sympathie, les tortues sont bien caractérisées, le design est pas mal, il y a la grosse scène d'action plutôt efficace. Donc, bon, c'est un divertissement honnête, mais ça sera pas la meilleure incarnation de ces personnages-là, on va dire.
Je crois que c'est un podcast exceptionnel ce soir, puisque Yannick, je crois que tu vas dire du bien, non seulement d'un film, mais aussi d'un reboot et d'une production de Michael Bay. Donc, je te pose la question, qu'as-tu pensé de ces Ninja Turtles ?
Ben, en fait, j'ai trouvé le film plaisant. Donc, je suis assez d'accord avec mon collègue sur le fait que les origines des Tortues Ninja c'est assez foiré. De même que Megan Fox est un choix franchement discutable. Elle est...
Bon, tu me fais un peu mentir parce que tu dis que du mal du film là pour l'instant.
Oui, mais je dis du mal du film pour partir après sur le. Je commence par les points négatifs en fait, parce que Megan Fox m'a énervé tout le film, surtout qu'elle est. Je veux dire, ça reste quand même un film pour enfants et je la trouve beaucoup trop sexualisée dans le film. On retrouve les travers qu'il y avait dans Transformers, à mon
tu
sens.
Tu me parlais bien prude, là, bien puritain.
Parce que attends, il y a juste un plan sur
ses juste un plan, voilà, quoi. Juste une petite blague, quoi.
Oui, d'accord, mais bon, faire ça pour un film pour enfants, c'est vrai. Que...
De bonnes scènes d'action, les effets spéciaux sont très bons.
Je vois pas passer la gauche.
On fait du Michael Bay, mais au moins le réalisateur a l'intelligence de faire ça sur 1h40 et pas sur 2h30, 3h. Donc, on n'a pas le temps de s'ennuyer. Et bon, bah, le scénario s'oublie très vite, mais non, on passe un bon moment.
Nicolas ?
Bah, moi, je suis un peu du même avis, c'est-à-dire que j'y allais vraiment à reculons, en attendant un vrai film pourri, vu le passif du réalisateur et du producteur. J'y allais même pas à reculons, j'y allais en moonwalk, quoi. Et du coup,
Et ben c'était pas, c'est très crétin, c'est loin d'être, c'est pas un bon film, mais c'est plaisant, c'est en fait on sent qu'ils ont voulu le faire pour les séquences en numérique où ils pouvaient vraiment se lâcher sur les angles de caméra impossibles à faire avec des prises de vue réelles. C'est-à-dire que dans le film, toutes les prises de vue réelles, entre guillemets, là où il n'y a pas d'effets spéciaux, de CGI, de fond vert, c'est filmé n'importe comment. C'est-à-dire que c'est torché, va comme je te pousse, il y a dû y avoir une prise et on passe à la suivante. Et en fait, tout le travail et le côté plaisant du film intervient vraiment à la post-production. Quoi. C'est-à-dire que ce n'est pas vraiment un film d'un réalisateur, ce n'est pas vraiment un film de producteur, c'est un film de post-producteur, je ne sais pas comment, de monteur et de gens qui s'occupent des effets spéciaux. Quoi.
Juste, hein.
Et d'ailleurs, il y a un gros problème de script aussi, oublié, c'est-à-dire que donc on a un New York. On va dire ensoleillé d'été, et apparemment juste à côté de New York il y a des montagnes, voilà, il y a des montagnes, on a le Mont Blanc à côté de, ouais, mais... à côté de New York, on comprend pas trop pourquoi.
Mais tu savais pas qu'il y avait l'Everest juste à côté de New York, enfin.
Non mais le film est très crétin, hein, on est tous d'accord là-dessus, mais c'est vrai qu'il y a un côté un peu fun, un peu plaisant, on n'a pas le temps de s'ennuyer, la séquence de la montagne justement, et là où il se lâche complètement sur les effets, les mouvements de caméra, les cadrages, il y a quelque chose d'over the top qui est assez plaisant. Le reste n'est pas terrible. Effectivement, Megan Fox on fait le tour du personnage en 5 minutes, donc c'est pas très intéressant. Et voilà.
Après O'Neill, c'est pas non plus le personnage super profond.
Parce que même dans le premier jeu, Steve Barron, je crois pas qu'après O'Neill, elle est.
Après O'Neill, c'est la. Déjà, elle était sexualisée à cette époque-là. Oui, et puis c'était c'était vraiment le stéréotype de la journaliste prête à tout pour son scoop, mais après qui découvre quand même faut être gentil avec les tortues, avec le monde pour sauver le monde, etc. c'est pas un grand personnage de toute façon, donc après O'Neill à la limite,
non c'est pas un grand personnage, mais dans les Tortues Ninja version 2014 je veux dire il passe la moitié des plans qu'il a filmé, on filme son cul quand même.
Ouais, mais ils l'ont engagé pour ça, c'est-à-dire, mais voilà.
Donc en fait, c'est juste, c'est sexiste.
C'est Michael Bell producteur.
Oui, c'est Michael Bell producteur.
Oui, c'est aussi sexiste, mais je trouve que ils exacerbent beaucoup trop le côté sexuel du personnage, ses formes, etc.
Mais comme disait Justin,
très
je pense
sexy,
que
c'est clair pour un film pour enfants.
Mais comme disait Justin, je pense que les gosses ils passent à côté de ça, quoi.
Oui, bien sûr. Mais moi, en tant qu'adulte,
c'est plus le papa qui accompagne le petit qui est content. Ouais.
Oui, c'est aussi
en l'occurrence, il est pas content.
C'est aussi pour appâter les adolescents qui vont aussi aller voir le film, alors que le film est plutôt destiné aux enfants. Donc ça essaye de brasser un petit peu large. Marc, ça donnait envie d'aller le voir, tout ça, les Tortues Ninja, ou...
Non, pas vraiment. Moi, j'avais vu les deux premiers, là, des années 90, mais il y a très 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 longtemps. Et quand vous parliez du...
Ils sont ressortis en Blu-ray récemment, d'ailleurs.
Le premier seulement.
Quand vous parliez du côté gangsta rap, ça m'a fait marrer, parce que ça m'a fait penser que c'était Vanilla Ice qui avait fait la BO du premier épisode.
Ah, c'est donc, gros gangsta rap.
Il y a un petit décalage qui est assez plaisant.
Parfait, nous allons passer donc peut-être aux autres films qui sont sortis ou qui vont sortir ce mois-ci. Donc la transition n'est pas évidente avec Nagima. Donc Jérémy, tu l'avais vu à Deauville. Est-ce que tu peux nous rafraîchir la mémoire sur ce film qui sort en salle le 26 novembre et nous dire ce que tu en as pensé?
C'était un film kazakh très aride qui parlait du destin d'une adolescente. Un peu simple d'esprit qui par la force des choses avait se retrouvé avec un bébé sur les bras et qui est sa meilleure amie mourait en couche et donc elle est l'héritée du bébé. Donc on va suivre le quotidien de cette pauvre jeune fille qui est un peu victimisée de partout, de toutes parts, et on découvre son quotidien pas toujours très rose. Et donc c'est un film qui assez aride, comme je disais, qui met du temps à démarrer. Le film est très court. Si dans mon souvenir il est très court, il doit durer 1h20, 1h15. Et pourtant on en ressent vraiment chaque seconde bien profondément. C'est très très c'est très très lent. Il leur sort une drôle de sensation, parce que on est dans l'attente de quelque chose. on ne sait pas ce qui va se passer. Il ne se passe pas grand-chose pendant tout le film, en fait. Si vous vous souvenez bien, on est un peu dans l'attente de quelque chose. On sent qu'il y a un drame qui va arriver, mais on ne sait pas. Et finalement, je ne vais pas vous tout raconter, mais c'est très noir, c'est très sombre. C'est pas toujours réussi parce que ça part nulle part. Et c'est un peu tristou, quoi. Ouais, c'est un film.
Moi, je trouve quand même que la force du film, c'est d'installer cette tension qui est quasiment permanente avec vraiment juste des cadrages.
Oui, c'est intéressant.
Des plans. Et on sent qu'effectivement, il y a une dramatisation qui est faite par la mise en scène.
Non, mais...
Et quelque chose arrive d'ailleurs. Enfin, on ne va pas le dévoiler, mais il y a quand même un événement dramatique.
Et c'est très fort en plus, quoi.
Le film va vers cette résolution et on attend le choc, en fait. Et le choc arrive. C'est vrai qu'il y a ce côté.
On l'anticipe, quoi.
On anticipe le choc, mais la mise en scène nous dit.
Voilà.
Vous allez être choqué et on est effectivement choqué.
C'est un film sur l'angoisse, en fait, parce que nous on anticipe, donc on angoisse, on anticipe, et la Nagima qui est l'héroïne, pareil, est dans cette attente permanente. Elle est perdue, elle est aussi perdue que nous. Ouais.
Elle sait pas quoi faire, en fait.
Elle sait pas quoi faire, et nous non plus, d'ailleurs, ouais. À part faire une petite sieste, peut-être. Mais c'est vrai que.
Je suis pas d'accord. Moi, je trouve qu'on n'a pas trop le temps de s'ennuyer, justement.
Mais je pense qu'en fait, le fait de s'ennuyer, je pense que c'est carrément voulu, parce que on est vraiment dans son quotidien à la pauvre fille, et c'est vraiment glauque, quoi. Donc, puis les journées sont longues, et elle fait les allers-retours entre sa copine prostituée, l'orphelinat, les plaines arides du Kazakhstan où il n'y a vraiment rien, c'est des bidonvilles.
Les trajets en bus qui devaient durer 5 minutes.
Mais oui,
film,
voilà.
Effectivement.
En fait, c'est une...
Voilà, ça aurait pu être réalisé par les Dardenne.
Oui, mais c'est une langueur qui est voulue en même temps, et je trouve ça assez réussi dans son genre. Mais après, il faut vraiment être dedans, il faut vraiment l'esprit pour aller voir ce genre de film.
Il y a moins de compassion, je trouve, que chez les Dardenne.
Oui.
Justement, enfin, l'univers est
mais
est dur,
la dimension sociale et la
façon dont
on est représenté.
Il y a un peu de Dardenne, mais c'est vrai qu'on est un peu plus extérieur.
Le côté épuisant aussi.
On est un peu en dehors par rapport aux Dardenne, où tu es vraiment impliqué. Là tu as l'impression d'être une sorte de touriste un peu qui regarde à travers une vitre le quotidien de ces gens-là. Et
on n'a pas envie d'aimer les personnages non plus, qui eux-mêmes d'ailleurs demandent à être aimés. Il y a une très belle séquence où elle demande...
Il y a un très beau personnage, oui.
Un buraliste, enfin un épicier,
l'épicier du coin,
qui vient à côté de lui dire qu'il l'aime. Ouais. Et donc là, il y a tout un jeu sur effectivement le fait de jouer un personnage, d'être dans la représentation. Et ça, c'est une scène qui est déjà assez forte, qui arrive à
mi-parcours. Et justement, ces choses-là ne sont pas... Quoi, ce personnage qui est très beau, de l'épicier, ou qui a l'air d'être un homme assez, assez fier et assez, voilà, comme ça, un peu, qui avoue pas trop ses sentiments, etc., assez pudique. Et je trouve ça, ouais, je le trouve très beau, ce personnage, parce qu'il est un peu ambigu, ouais, on sait pas s'il l'aime vraiment, s'il la rejette totalement, mais c'est pas assez développé, quoi, en fait.
Bah, le film est court, et en même temps, il s'étire sur des choses qui... sur des choses, et forcément il passe sur d'autres.
Mais après, c'est vrai qu'en y réfléchissant, c'est vrai qu'il s'attarde sur les, voilà, comme les trajets en bus, t'en parlais, Victor, c'est vraiment le truc où tu vois, t'as de la peine pour elle, quoi, vraiment, ouais. Tu te dis, mais la pauvre, mais pourquoi,
pourquoi
t'es là, ma pauvre, quoi, tu te dis, putain, c'est voilà. Mais c'est vrai que c'est très réussi, mais après, faut vraiment être dans l'esprit pour voir ce genre de film, faut avoir le courage de voir un film d'1h20 qui, t'as l'impression qu'il dure 2h45, quoi. Donc,
c'est vrai. Moi, je me rappelle que j'avais beaucoup aimé la première séquence dans le restaurant, donc elle est commise cuisine, et tu vois en fait ça représente un peu toutes les étapes de ce métier là qui sont aussi épuisantes, en fait, que après ce qu'elle va vivre.
L'air de rien, on en parle, mais voilà, ça fait on l'a pas vu depuis, ça c'était en mois de mars,
et puis il y a les scènes qui nous reviennent comme ça,
il y a
quelque chose de marquant quand même,
il y a quelque chose de marquant, et vraiment, moi la fin, elle m'est restée, voilà. J'y pense encore, quoi. Il y a des fois où ça me vient comme ça. C'est très fort, quand même.
C'est vrai que c'est pas un film facile, mais c'est un film qui vaut quand même, à mon sens, enfin, d'avoir la force d'aller le voir, justement.
Oui, voilà, c'est ça, en fait.
Mais on passe pas un bon moment. De toute façon, c'est pas un film plaisant, c'est un film qui est assez mal aimable, quoi.
Voilà. Ouais. C'est pour ça que quand j'étais ressorti, j'étais très mitigé. Enfin,
moi, j'étais mal, quoi.
J'étais mal,
un peu perturbé, quoi.
J'avais pas trop quoi penser. Je savais pas trop quoi penser de la fin. Et puis là, toujours, je sais pas trop quoi penser de la fin. Mais bon, peut-être que je le reverrai.
Justement, moi, je sais pas si j'aurai la force de le revoir, en fait.
Peut-être. On verra.
Alors peut-être qu'après être allé voir Nagima, vous pouvez faire une petite récréation grâce à un film qui nous vient de Bollywood, qui est actuellement en salle. C'est Micmac Masters. Est-ce que Jérémy, tu peux nous en dire quelques mots?
Bah déjà, en gros, l'histoire, c'est l'histoire d'un gang de voleurs qui forment une équipe un peu surréaliste, qui viennent tous d'horizons différents, etc., qui prennent en tête de kidnapper le fils d'un puissant policier. Et donc, évidemment, rien ne va se passer comme prévu, et de là va en découler des événements assez drôles. Voilà. Et donc, j'étais assez surpris. Je pensais que ça allait être un gros foutoir, un peu fourre-tout, voilà, justement. Et finalement, c'est ce que c'est. Mais j'ai pris un gros plaisir à suivre ces personnages-là, qui sont tous très drôles, très bien écrits. Il y a des petits gimmicks comme le mec qui voit une superbe femme avec lui. Il est amoureux d'une femme qui n'existe pas, et il n'y a que lui qui la voit, et les autres ne se demandent à qui il parle, etc. Donc c'est un gimmick qui est vraiment très très drôle, et ça dure.
Ça marche assez bien au début, effectivement, on voit les personnages parler, un personnage qui n'existe pas. Donc,
Et comme les acteurs sont très impliqués et très bons dans leur partition, je trouve que c'est vraiment le côté comédie fonctionne à merveille. Et en plus, il y a une dimension politique qui s'ajoute, et qui est une touche de cynisme, d'humour noir qui est très drôle. Ça dénonce la corruption en Inde, toutes les couches de la société sont corrompues, etc. Et y a vraiment une noirceur qu'on retrouve pas souvent dans les comédies comme ça, dans les comédies indiennes. C'était très dangereux de faire ça. Je trouve qu'il y a la fin est très cynique en plus. Et je trouve ça assez courageux de faire un film comme ça aujourd'hui, une comédie noire comme ça. Vraiment, c'était vraiment une très très bonne surprise.
C'est vrai qu'on a un peu l'impression de voir un Bollywood très très classique dans la forme. Finalement, il y a des chansons, il y a des couleurs, c'est très léger. Et finalement, dans le fond, ça rejoint Ugly, par exemple, voilà, avec des thématiques assez proches sur la corruption. Ça parle d'enlèvement aussi. Donc, c'est assez malin de faire passer ces sujets-là un petit peu en douce et en contrebande dans un cinéma très populaire et très aseptisé normalement.
Oui, ça reprend exactement tous les codes Bollywood. Voilà, on a les clips assez bling-bling, etc. Mais il y a ce discours assez assez subversif qui est vraiment surprenant en fait.
Donc Micmac Masters, c'est de Nalan Kumasamy.
Oui.
Et il est en salle à peu près, on va dire. Et il est en salle depuis le 5 novembre au Publicis sur les champs. Il devrait tourner un petit peu en province. Donc si vous pouvez le voir, allez-y.
De toute façon, les films indiens, c'est au Publicis.
Exactement.
C'est déjà ça.
Il y a aussi Happy New Year d'ailleurs qu'on n'a pas vu, mais qui joue en ce moment. Donc il a l'air, c'est le gros blockbuster bollywoodien du moment.
Sauf que ça sort pas au moment du jour de l'an. Quoi.
Non, un petit peu avant. Mais c'est une sortie mondiale néanmoins. Donc c'est étrange d'avoir choisi cette date là, mais
nous allons. Les marketing, hein. Sont impénétrables.
Nous avons également choisi comme teaser le troisième film réalisé par Miike Takashi cette année, qui s'appelle As the God Wills, ou Kamisama no Tutori, ou Jeu d'enfant en français. On a vu la bande-annonce, elle est sur le site en ce moment. Le film sort dans quelques jours au Japon, et on se demande s'il ne signe pas le retour du Miike un peu foufou qu'on avait perdu de vue depuis quelques années. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette bande-annonce ? Marc ?
Eh bien, bande annonce assez prometteuse. Ça a l'air véritablement une sorte de film what the fuck, à la fois drôle, à la fois sanglant et complètement déjanté. Donc, de ce qu'on voit sur la bande annonce, ça m'a l'air d'être un peu une sorte de Battle Royale sous LSD. Donc, c'est. Je pense que ça fait quand même depuis quelques films que Miike revient un petit peu dans le game et qui fait des films un petit peu plus foufou et moins conventionnels que ce qu'il faisait ces derniers temps. Il a notamment fait quelques films qui étaient assez violents, qui se passaient dans les milieux lycéens où il y avait quelques scènes de gunfight assez bien senties et toujours très drôles et toujours un petit peu second degré. Et là, le film, j'ai l'impression que c'est même plus de ce second degré. Ça fait penser, ouais, à Battle Royale versus Série Z versus LSD champignon. Donc ça, ça et versus Kawaii. Donc ça a vraiment l'air très 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 marrant. On verra bien. Enfin, on verra bien si ce genre de film tient aussi bien sur un long métrage de 2 heures que sur une bande annonce de 2 minutes.
Il faut un peu se méfier aussi avec, avec Mickey, parce qu'il a fait des films qui avaient l'air complètement, complètement fous et qui finalement sont assez sages. Et l'inverse aussi. Enfin, et très nul. Donc, mais c'est vrai que celui-ci donne, donne vraiment envie de s'y plonger pour le côté assez délirant de l'univers.
C'était Lesson of Evil qui était pas mal, qui était sorti il y a 2 ans, je crois, où il y avait justement une sorte de gunfight et de prise d'otage dans un lycée qui était vraiment très très bien. Et là, il reprend la thématique du lycée, donc en espérant que c'est pour le mieux.
Yannick, ça t'a donné envie de le voir, cette bande-annonce ?
Ah oui, totalement. Bah, moi, j'aime énormément Mickey, que ce soit sa période plus sage de ces dernières années, mais quand même particulièrement ses films les plus déjantés. Donc là, effectivement, en 2 minutes, il nous présente des choses assez étranges, en même temps très sanglantes et en même temps franchement starbées. Donc oui, je suis impatient de voir ce que ça peut donner sur la durée d'un film.
Moi, je me demande toujours comment Mickey peut faire autant de films par an. Donc,
La coke.
Ouais, ou la coke, ou il a un frère jumeau caché, ou il a le pouvoir d'arrêter le temps, je sais pas. Bon, en tout cas, j'espère que le fait d'enchaîner les films comme ça ne va pas dénaturer ce genre de film-là. Qui, avec l'abondance, on a l'impression que c'est vraiment un bon film, mais comme il est fait assez rapidement... J'espère que ça va tenir sur 2 heures. Quoi.
Bon, en même temps, ses meilleurs films, il les a fait aussi rapidement. Hein. C'était son âge de
bah, c'est un jours, peu, c'est un peu qui tout double avec lui. Hein.
Puis je pense qu'il est, comme il écrit pas ses scénarios, il tourne avec une équipe qui lui prépare le terrain. Et lui, il n'a plus qu'à filmer et donner quelques indications. Donc c'est un peu l'usine. Hein.
Ouais.
Donc Kamisama no Totori est en salle au Japon le 15 novembre et bientôt peut-être en DVD en France ou lors d'un festival. Ou sur d'autres sites sur internet. Vous pouvez vous référer à notre précédent podcast pour savoir de quoi on parle. Nous allons finir ce podcast avec un conseil et une attente par personne. Le temps que Jérémy choisisse avec les gros yeux qu'il fait, je vais me tourner vers Justin. Donc est-ce que tu as un conseil cinéma ou autre en salle, en DVD, en ce moment ?
Alors, j'aurais peut-être deux recommandations. Alors, on va commencer par le DVD. Alors, ce serait pour les amateurs de comédie un peu italienne, les classiques de l'âge d'or de la comédie italienne. Il y a un film qui est sorti récemment qui s'appelle donc Elle est terrible de Luciano Falce. Et donc, c'est une espèce de film jumeau pour ceux qui connaissent du film Le Fanfaron hein, de Dino Rizzi. Donc, une espèce de film un peu estival où on a un quarantenaire, un ingénieur assez sérieux, assez macho, qui se retrouve confronté à une bande de jeunes en vacances. Et donc voilà, on a un peu le conflit des générations entre les travailleurs un peu qui ont fait la Deuxième Guerre mondiale, qui ont participé à l'essor du pays durant l'après-guerre, donc qui ont reconstruit le pays, et puis c'est les jeunes un peu oisifs, insouciants, du début des années 60, et puis donc il y a une confrontation qui se fait, et puis donc en fait l'homme va tomber amoureux d'une fille de 16 ans qui est jouée par Catherine Spack, et donc il va retomber complètement en adolescence, en tombant amoureux d'elle, il va se ridiculiser complètement, donc c'est assez drôle de voir quelle manière un personnage un peu macho, un peu viril, qui en impose comme ça, joué par Hugo Tognazzi, va complètement retomber en adolescence, et puis donc c'est assez drôle, il y a une ambiance un peu estivale comme dans Le Fanfaron, c'est une espèce de road movie assez drôle, et puis finalement au fil du film il y a une espèce de mélancolie qui se ressent pour ce personnage qui était plutôt antipathique au départ du fait d'être éconduit par la fille, donc les jeunes apparaissent plutôt comme des écervelés un peu trop insouciants, un peu gratuitement méchants, alors que finalement l'homme d'âge mûr apparaît plus humain, donc c'est un peu comme Le Fanfaron, voilà, au fil du film, il y avait une espèce de noirceur qui se dessinait avec une fin moins tragique que Le Fanfaron, mais assez mélancolique, donc c'est intéressant. Donc, voilà, Elle est terrible de Luciano Falce, pour ceux qui aiment la comédie italienne. Puis en recommandation salle, il y avait, bon, pense qu'il n'y aura pas besoin de ma recommandation pour ceux qui veulent aller le voir, mais c'était Interstellar de Christopher Nolan.
Je pense que les, ouais, les, ouais, les gens
priori,
sont
voilà, ils n'ont pas besoin de moi, hein, je pense.
Un petit film, ça se perd dans l'espace.
Un petit film d'auteur un peu confidentiel. Donc bah, là, c'est. Donc, c'est en fait, l'histoire, en gros, sans trop en dire, donc c'est dans un monde, dans un futur proche, où on a la terre qui est devenue aride de culture, qui est recouverte par la poussière, donc où, vraiment qui est mourante. Et puis donc il y a une expédition qui est lancée vers d'autres pour trouver d'autres planètes dans d'autres galaxies, pour trouver des planètes habitables pour les humains. Donc on a le personnage de McConaughey, qui est un ancien pilote qui se morfond un peu sur Terre avec ses compétences qui ne servent plus à rien dans ce monde sans technologie, donc il trouve une occasion de se relancer, une nouvelle raison de vivre, et donc il va laisser ses enfants sans savoir quand il va revenir, vu qu'il traverse un trou noir qui va créer...
Donc c'est vraiment un remake d'Armageddon, alors.
Là, il n'y a pas de menace, en fait, là, il n'y a pas de comète, il n'y a rien, c'est juste que la Terre se meurt, donc... Oui. C'est plus un archétype de la SF, c'est un thème qu'on retrouve dans la littérature SF aussi. Donc avec ce parallèle, ce décalage temporel qui fait qu'il ne sait pas trop quand il reviendra, mais il promet à sa fille qu'il sera revenu à temps. Et donc on a deux histoires en parallèle, on a la vie sur Terre de ses enfants qui essaient de trouver... Enfin, j'en dis pas plus. Ouais,
j'étais content de rien savoir sur le film, mais là, t'es déjà allé très loin. Donc,
bon, non, là, c'est tu vois la bande-annonce, si t'en sais pas plus.
J'avais fait exprès de pas l'avoir vu.
Désolé. Donc voilà, il y a un parallèle, entre l'aventure spatiale et puis l'aventure sur Terre. Donc voilà, ce qui change un peu, c'est le côté très cartésien de Nolan, là, qui est un peu... On a l'armure un peu cartésienne qui se fendit un peu de Nolan, qui personnellement je trouve qu'il se fendillait déjà dans Inception, mais Inception restait assez explicatif sur tous les concepts, les principes de cet univers-là, alors que là, pas du tout, c'est très naïf. Ça devrait surprendre pas mal sur certains rebondissements, certains enchaînements qui sont vraiment très, très inattendus de sa part, où il n'y a pas d'explication. Surtout si on compare, donc vous pourrez chercher quand vous aurez vu le film sur le net avec le premier script où Spielberg devait réaliser le film, où c'était beaucoup plus cartésien, bizarrement beaucoup plus explicatif, alors que là Nolan ose une espèce de poésie, une naïveté qu'on lui connaît pas. Et donc, et puis visuellement, c'est quand même très impressionnant, les passages dans l'espace. J'ai trouvé ça dans des films de SF récents, un peu terre à terre, hard science, j'ai trouvé ça meilleur, moi, que Gravity, qui était peut-être plus virtuose visuellement, mais sur le fond, qui était quand même assez, qui avait quand même des gros sabots sur la thématique, alors que là, je trouve que c'est beaucoup plus poétique, beaucoup plus enchanteur. Donc là, je recommande, même si on n'aime pas Nolan, peut-être des chances qu'on adhère à celui-ci.
Et est-ce qu'il y a un film que tu attends, que tu n'as pas vu?
Pour 2014,
2015, 2016.
Si, il y avait le The Gambler, qui avec Mark Wahlberg, donc qui est réalisé par je ne sais plus qui, mais qui est un remake d'un très très bon film des années 70 qui s'appelait The Gambler aussi, le flambeur, réalisé par Carol Reiss, un réalisateur anglais, avec James Caan. Donc c'était une adaptation du joueur, mais dans un cadre contemporain, avec James Caan, donc qui était un espèce de personnage autodestructeur qui pariait sur tout ce qu'il pouvait parier, quitte à se mettre dans des problèmes pas possibles. Et donc c'était vraiment un grand film des années 70, assez méconnu, si vous avez l'occasion de le voir. Peut-être qu'il sortira en DVD à l'occasion du remake. Et là, le remake, elle a vraiment pas mal avec Mark Wahlberg. Donc à l'origine, ça devait être DiCaprio et Martin Scorsese, donc on pouvait être assez prometteur aussi. Mais là, Mark Wahlberg a vraiment l'air de se mettre pas mal à nu. Les situations ont l'air assez violentes, assez tendues. Donc ça peut être intéressant.
Donc paries sur ce film.
Voilà, je parie sur ce film 2015.
Nicolas, est-ce que tu as des conseils cinéma?
Alors j'ai un conseil.
1, 2, 10.
Encore, non, j'ai deux conseils cinéma. J'en ai un pour un film qui est sorti. Un film finlandais qui s'appelle Earth of a Lion, qui est malheureusement sorti dans très peu de salles. Moi je suis un spécialiste pour conseiller les films qui sortent dans 4 salles en France. Donc,
et vous en montez le podcast.
Voilà, voilà, exactement. Donc c'est un film finlandais qui parle de néo-nazis. Donc le protagoniste principal est un néo-nazi, donc c'est on part d'une situation qui est un peu casse-gueule dès le départ, quoi. C'est très difficile de traiter ça avec toutes les questions morales qui en découlent. Mais donc ça parle donc de ce personnage de néo-nazi qui appartient à un groupe néo-nazi et qui du jour au lendemain tombe amoureux de...
D'une néo-nazi ?
Non, pas d'une néo-nazi justement, d'une femme tout à fait normale. Et qui a un enfant d'origine africaine qu'elle avait déjà d'une précédente union. Et donc forcément, le néo-nazi va devoir faire des concessions, revoir complètement sa façon de penser... pour garder l'amour de sa copine. Et donc à partir de là, il y a toutes des questions morales qui en découlent par rapport à son ancien groupe, par rapport à son frère qui est lui un vrai néo-nazi pur, qui a fait l'armée, qui est ultra intolérant avec tout ce qui n'a pas la même couleur de sa même couleur de peau. Et c'est très intéressant parce que on aurait pu tomber dans le film social super noir, super dur, très plan-plan, comme on voit pas mal. C'est-à-dire que les films scandinaves, la plupart du temps, c'est souvent de la caméra à l'épaule, très rapproché des personnages en gros plan. Pas tous, hein, mais de ce que je vois, moi, c'est toujours un peu le même style. Et là, c'est un vrai film de cinéma, c'est-à-dire qu'il y a des plans à tomber par terre, des idées de cinéma assez souvent. C'est un film qui manie l'humour, les situations de l'humour, l'évolution des personnages est très, très réussie, l'écriture est très réussie. Bon, il y a un petit peu une vision un peu manichéiste.
Manichéen,
pardon, par moment, mais je trouve que c'est un très beau film, très vrai pamphlet contre l'intolérance, très émouvant, avec des vraies belles scènes de cinéma. Et donc je le conseille, si ça joue encore, quand vous écouterez ce podcast.
Il y a un autre conseil.
Alors oui, mon deuxième conseil, donc c'est un film qui n'est pas sorti cette fois, mais qui, je pense, sortira dans quand même pas mal de salles, enfin j'espère, parce que sinon c'est un peu honteux. Donc c'est un film qui a reçu le Grand Prix à Deauville, cette année, qui s'appelle Whiplash, de Damien Chazelle, avec Miles Taylor et l'immense J.K. Simmons. Ah
ouais. Il a une date de sortie, hein, je crois.
Le 24 décembre. Voilà, super date de sortie, merci les gars. Et donc, aussi un super film, parce que donc ça parle d'un jeune batteur, joué par Miles Taylor, qui est un vrai batteur dans la vie, hein, très doué, et ça se voit dans le film, qui arrive à intégrer une école de musique très prestigieuse, et qui donc il va rencontrer ce prof de musique qui est joué par J.K. Simmons, qui est le genre de prof super dictateur qui va tout faire pour pousser à bout ses élèves pour en retirer le maximum, avec les avantages et les inconvénients. Et donc on a un vrai affrontement titanesque entre Miles Taylor et J.K. Simmons, et derrière toute une réflexion sur jusqu'où aller pour développer son art, s'il faut dépasser les limites ou pas, encore des questions morales en ce qui concerne la musique, l'arc est très intéressant. Et donc c'est un film superbement mis en scène, superbement monté, c'est-à-dire que toutes les séquences de batterie sont juste à tomber par terre, c'est en rythme avec la musique et tout, c'est assez génial, ça va à 200 à l'heure. Et c'est un film qui va être assez loin, beaucoup plus loin que je le pensais. En fait, le personnage de J.K. Simmons fait vraiment penser au personnage de Sergent Hartman dans Full Metal Jacket, pour la comparaison. Donc voilà, c'est un film. On peut rire de certaines situations tellement c'est poussé, elles sont poussées à leur paroxysme. Il y a des moments aussi de grande tension.
Est-ce que c'est pas le film estampillé Sundance de base?
Il a aussi gagné le Grand Prix à Sundance, je crois.
C'est pour ça que je
te... Mais justement, ça s'éloigne assez rapidement.
Miles Taylor, c'est quand même le spécialiste.
Ouais, mais justement, ça s'éloigne assez rapidement parce que les deux acteurs sont monstrueux.
Non, mais de toute façon, oui.
Mais ça s'éloigne assez rapidement justement des films estampillés Sundance, parce que c'est... Enfin, faut arrêter un peu de penser aussi à chaque fois qu'un film indépendant qui a du succès sort et forcément un truc qui se réfère à
Sundance. Mais je suis d'accord avec toi, mais...
Là, je trouve que bon, il n'y a pas grand-chose à voir avec Sundance ou pas Sundance, c'est juste un pur film indépendant super bien mis en scène, super bien joué.
Divergence, et qui parle Sundance.
Mais justement, il a rogné le film.
Oui, donc, et qui est vraiment très impressionnant au niveau du montage, surtout. Enfin, le travail du montage est assez incroyable. Et voilà, donc je vous le conseille. Et donc, Une Attente, c'était tout simplement le Astérix de Astier. Voilà, tu t'es piqué, c'est ça? Non, je vais pas rentrer à en dire. Voilà, Astérix et Astier. Voilà.
Yannick aussi va devoir trouver une autre attente.
Voilà.
Marc, est-ce que tu as un conseil
Ciné? Donc, conseil Seven Scott de Kiyoshi Kurosawa, qui sera donc projeté au prochain festival Kinotayo à Paris.
Et à Entrevue de Belfort.
Donc c'est un film assez bref puisqu'il dure 60 minutes. Donc ça nous ramène au premier film de Kurosawa du début des années 80 avec les doubles programmes, les deux films de 60 minutes qui étaient projetés. C'est pas un Pink Uega par contre, c'est véritablement une sorte de film, on va dire... on va dire que c'était une sorte de thriller énigmatique. Je ne vais pas en dire plus parce que sinon ce serait dévoiler un petit peu trop du film. Mais c'est un film assez, assez étonnant, assez économe au niveau des dialogues et au niveau des plans. C'est un film qui est tourné à Vladivostok où il y a vraiment très peu d'acteurs. Il doit y avoir une dizaine d'acteurs maximum dans le film et surtout 3 acteurs principaux ou 4 acteurs principaux. Et c'est l'histoire d'une femme qui rencontre un homme à Vladivostok et qui est un japonais et qui lui dit je vous ai déjà rencontré il y a un mois, je suis venu du Japon spécialement pour vous voir. La fille se fait jeter et finalement elle essaie de suivre cet homme-là, elle se fait kidnapper par une sorte de mafia locale de Vladivostok et elle va tout faire pour essayer de retrouver l'homme japonais du début du film. En vivant de petits boulots à Vladivostok, donc on voit les rues qui sont filmées. Il y a un petit aspect fantomatique, comme dans la plupart des derniers films de Kurosawa, où les rues sont assez étonnamment vides. Et il y a un petit côté fuite en avant, et c'est pas un road movie, étant donné qu'il se passe très peu de choses, mais le film, on a l'impression que c'est en roue libre, et du coup que les scénarios se jouent en même temps que c'est filmé. Il y a un petit côté Pierrot le Fou également, mais un Pierrot le Fou en solo, finalement. Et donc c'est un film assez étonnant et plutôt plaisant à voir. Et sinon, comme film attendu, je dirais Golden Suicide de Gaspard Noé qui devrait sortir en 2015. Donc je pense que de la part de Noé, on peut s'attendre à de bonnes choses.
Ouais, beaucoup de cul apparemment.
Oui, justement.
D'ailleurs, vous avez entendu le slogan qu'il a dit
Non.
Un film qui fera bander les garçons et pleurer les filles.
Ah oui, c'est ce qu'il a annoncé.
Quel poète.
Voilà.
Yannick, est-ce que tu as un film à conseiller aux auditeurs?
Oui, mais moi, ce sera plus dans le rayon DVD qu'il faudra le chercher. Je pense personnellement à Dark Souls, qui est sorti depuis le 1er octobre chez Le Chat qui fume, qui est donc un film norvégien réalisé par deux Français.
Est-ce que les personnages meurent tous au début?
Non, les personnages ne meurent pas tous au début.
Non, c'est référence au jeu vidéo Dark Souls, tu crèves au bout de 5 minutes.
Ah d'accord.
Ah oui, non, pas du tout. Aucun rapport avec le jeu vidéo. Non, ça commence, c'est une jeune nana assez sexy qui fait son jogging et qui se fait attaquer dans les bois par un psychopathe qui lui perce un trou à la perceuse.
Driller Killer, donc, plus dans
l'ambiance. Ben, on pense au début à Driller Killer, ensuite ça vire dans la contamination zombiesque pour finalement passer sur d'autres choses complètement. Le film est assez lent, assez difficile. Il y a un côté scientifique fou, il y a donc une espèce d'invasion de zombies parce que justement les victimes de ce tueur en série se réveillent mais n'attaquent pas les autres. Et c'est un film assez vraiment assez fascinant, bien réalisé, bien filmé, assez un peu difficile d'accès, mais très intéressant.
Et est-ce que tu as une attente au cinéma?
Alors en attente, moi j'attends le qui va sortir bientôt en Belgique, en France, je sais pas, peut-être déjà sorti d'ailleurs. Alléluia de Fabrice Duvels.
Oui.
J'adore Calvaire, j'adore Vignane, donc.
Il est pas encore sorti, hein. Je me trompe peut-être, mais.
Non, il sort à la fin du mois. Mais il a été diffusé à l'étrange.
Ils ont annoncé qu'il allait.
À la quinzaine.
Il a réalisé un film aux États-Unis.
Col 45, non, c'était pas terrible.
Oh, j'ai trouvé.
Enfin, c'était, c'est voilà, on va pas dévier. Bon, Alléluia, j'ai pas du tout aimé en tout cas.
Ok, donc oui, on peut. Ah, tu l'as vu, donc.
Oui, je l'ai vu, mais j'ai pas du tout aimé. Bon, je vais pas rajouter. Mais... C'est pas mon style en fait.
Jérémy, quel est ton conseil cinéma ou autre?
Bah alors, je vais vous conseiller 3 films. D'abord, j'ai joué le Captain Obvious comme Justin, mais si vous l'avez pas vu encore, foncez voir Gone Girl de Fincher. Parce que c'est vraiment un grand film.
Je crois que c'était le conseil de Justin.
Donc le mois prochain, tu auras Interstellar.
Mais je suis en retard, mais vraiment, j'ai été soufflé par l'intelligence du film, la façon dont il utilise les acteurs. Je trouve qu'on retrouve un peu de ce que faisait Verhoeven, ce qu'a fait Verhoeven avec Starship Troopers, par exemple, où il utilisait des acteurs complètement fadasses et et qui en jouait justement, et là il joue
sur le bien de Casper Van Dien, s'il te plaît.
j'adore Casper, mais il est très mauvais. Et donc là il choisit Ben Affleck qui est vraiment l'archétype du gars voilà, bien fadasse, etc. Et on joue sur ce côté-là, sur son côté un peu élusif, un peu il en a rien, voilà, il a perdu sa femme, il en a rien à foutre. Et donc je trouve ça assez brillant. Il y a un habillage musical sensationnel, vraiment. Puis en termes de mise en scène pure, c'est assez virtuose. J'ai été vraiment impressionné. Et donc c'est du grand Fincher, voilà. Depuis Zodiac, Fincher c'est devenu vraiment un grand bonhomme.
Moi j'ai rien depuis Alien 3. Hein.
Oui. Non mais moi je suis de l'école Zodiac. Mais bon.
J'adore Zodiac, ouais. Mais en même temps.
Le Director's Cut d'Alien 3 est bien,
c'est vrai. The Game était très bien,
Seven
aussi, The Fight Club,
c'est un des films bien, sauf la plus importante.
Bon, on fera un podcast Fincher la prochaine
fois. Mais je te rejoins sur
Gone Girl, j'ai trouvé ça vraiment brillant, donc voilà. Et donc il y a deux films, je vais me la jouer un peu, élitiste, mais il y a deux films qui ressortent en salle. Donc il y a le Cuirassé Potemkin d'Eisenstein qui ressort. Ah oui non mais voilà, il y a la nouvelle quoi. Il y a des gens qui ont encore pas vu ce chef-d'œuvre.
Il y a une réédition DVD toutes les.
Mais oui, mais il y a encore des gens qui n'ont pas vu ce chef-d'œuvre. Il faut le voir en salle.
Oui.
Voilà, c'est en termes de mise en scène, de montage, c'est fondateur, c'est juste. Ouais, après idéologiquement, on peut trouver ça pas terrible. Mais en termes de mise en scène pure, en termes de montage, c'est comme Griffith, quoi. On peut trouver ça douteux, mais c'est fondateur et il faut le voir pour la culture et c'est un grand film tout court, voilà. Et donc le deuxième, c'est
La naissance d'une nation, oui, intolérance.
Oui, mais je te parle de naissance d'une nation. Et puis même Griffith dans son, je ne parle pas Griffith. Et donc le deuxième, c'est un grand chef-d'œuvre de l'expressionnisme allemand. C'est Le cabinet du docteur Caligari. Ce film-là, on parle beaucoup de Metropolis, Fritz Lang, blabla. Mais ce film-là, on n'en parle pas, et c'est une des principales inspirations de Tim Burton. C'est juste magnifique. L'univers du Dr Caligari, les plans, la composition des plans, c'est juste magnifique.
Comme donc, tout un pan
je l'ai jamais vu
de
en,
ce cinéma allemand.
Je l'ai jamais vu en salle, et je vais aller le voir en salle parce que c'est à tomber par terre de beauté. Et voilà. Et donc voilà, j'en ai fini avec mes attentes.
En même temps, c'est pas élitiste, c'est du cinéma populaire.
Oui, c'est des classiques. Je savais, j'attendais les remarques de Nicolas.
Oui, il y avait Nicolas. T'as bien fait d'anticiper.
Voilà. Et donc ça, c'était mes conseils. Maintenant, j'attends une comédie particulièrement, c'est la suite de Dumb and Dumber, des frères Farrelly, qui va sortir au mois de décembre, il me semble. Et le trailer m'avait mis par terre, je pleurais de rire rien qu'en regardant le trailer. Et je trouve que voilà, on sous-estime un peu les frères Farrelly, on n'en parle pas beaucoup, alors que c'est...
Il faut dire que le dernier film qu'ils ont fait, ça fait peur quand même.
C'est des frères Farrelly, c'est ça.
Mais non, mais je trouve qu'on sous-estime leur sens du burlesque, leur...
Ils ont un pic au niveau de la critique au début des années 2000, où là c'est retombé parce que les films n'étaient pas bons.
Mais même là, non, mais même dans bon, par exemple, Bon à tirer qui était pas exceptionnel, mais ils osent des trucs dedans que personne d'autre ose, quoi.
Ouais,
le caca dans la baignoire ou des trucs comme ça, c'est des trucs.
Ah, mais le film sur le parcours de Wolf.
Non, mais le film était
après,
pas.
Après, Bon à tirer, il y a déjà quelques années, donc c'est vrai qu'on a vu.
Bon à tirer, il a quoi, il a 2 ans, 3 ans.
Il a 2 ans. C'est leur dernier.
C'est leur dernier Bon à tirer.
Non, ils ont fait les 3 Stooges.
Non, ils ont fait les 3 Stooges après, qui étaient vraiment nuls.
Avec Ketaptan.
Ah oui, t'as pas tort. Bon, en même temps, bon, d'accord, voilà. Mais bon, on attend. Dumb and Dumber, ça fait 20 ans qu'on attend de les revoir. C'est de Nigo, là. Voilà. Et bon, bah, je l'attends comme un malade, donc voilà.
Non, mais moi, j'attends qu'il refasse.
Et je vais conseiller juste une série télé, parce que bon.
Il faut pas
déconner. Je suis tombé sur une petite série anglaise qui s'appelle Scrotal Recall. Déjà, le titre est génial. Et c'est donc l'histoire d'un trentenaire un peu paumé. Qui se rend compte qu'il a attrapé une maladie sexuellement transmissible et donc il doit prévenir toutes ses anciennes partenaires sexuelles. Et donc en découle des scènes assez burlesques et assez drôles, mais il en découle aussi une belle tendresse, c'est un beau portrait sociétal, c'est des beaux personnages, c'est très émouvant, alors que je pensais que ça allait vraiment un truc bien bourrin.
C'est un pitch qui fait un peu penser à du Broken Flowers en trash. Hein,
ouais, mais c'est ça, c'est carrément une version trash, mais on s'attend à un gros truc bien lourdeau, justement, dans la veine peut-être des frères Farrelly, ou je sais pas. mais c'est plus, c'est une veine plus tendre et c'est plus mélancolique. C'est vraiment une très très belle surprise. Donc là, la saison s'est terminée. C'est terminé hier. Une petite saison, une de 6 épisodes qui dure 25 minutes. Donc ça, c'est très rapide. Donc,
bah, et ils arrivent à faire plusieurs saisons avec un point de départ.
Bah, pour l'instant, on ne sait pas si c'est renouvelé ou pas. Mais,
il a fait des bonnes audiences,
non ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, 6 épisodes de. 6 épisodes de grand bonheur, quoi. C'est vraiment une petite surprise.
Parce que ça paraît pas exploitable plusieurs années. Comme...
Oui, mais parce qu'en fait, c'est juste un point de départ. Parce qu'après, c'est vraiment. C'est, t'as une histoire d'amour, parce que c'est un petit trio d'amis. Et après, il y a un petit triangle, pas un triangle amoureux, mais il y a un petit duo qui se forme. Il y a des... C'est très tendre, en fait, on a l'impression que ça va être un truc bien trash, où genre il va aller prévenir ses partenaires, etc. Ça va être assez. Voilà. Mais ça manie le burlesque, le comique de situation, les running gags, tu vois, c'est vraiment, c'est très complet. Et non, c'est vraiment, vraiment une très belle surprise. Donc allez-y, n'hésitez pas.
Et quant à moi, vu que vous m'avez piqué tous mes conseils ciné les uns après les autres, je vous conseillerais de lire All You Need Is Kill de Sakurazaka Hiroshi, qui est en fait le roman qui a été adapté en Edge of Tomorrow, donc le film de Doug Liman avec Tom Cruise, et qui est assez complémentaire et intéressant, même si vous avez vu le film, puisque c'est exactement la même histoire, ça reprend le même concept, enfin c'est plutôt le film qui reprend le même concept, mais avec un point de vue tout à fait différent. C'est beaucoup plus dur, beaucoup plus aride, beaucoup plus réaliste, et surtout ça offre une fin qui est assez satisfaisante, là où le film partait vers un happy end hollywoodien. Là, ça assume le côté beaucoup plus tragique et cauchemardesque de la situation du personnage. Donc même si vous avez vu le film, je vous conseille tout de même de lire le roman. Et quant à mon attente, c'est Eden de Mia Hansen-Love, donc qui s'annonce comme l'histoire un peu intimiste de la French Touch. Comme Jérémy a fait son élitiste, moi je fais mon bobo. Et donc j'attends ça avec pas mal de curiosité.
La musique, la musique, c'est les Daft Punk qui font
partie. Non.
Parce que je crois qu'ils font.
En fait, c'est un fake truc. Au début, on pensait que c'était un biopic sur les Daft Punk.
Mais je suis tout à fait d'accord. Mais c'est pas, ils font pas un morceau, ce que j'ai entendu. Ils essayent de garder ça secret ou je sais pas quoi. Mais enfin, il y a des gens qui l'ont vu. Donc,
j'avais beaucoup aimé. Je sais pas s'ils ont confirmé ou pas. Le dernier Mia Hansen-Love qui était. C'était quoi ?
Le père de.
C'était quoi ? C'était avec. C'était le parcours d'une jeune.
L'amour de jeunesse.
L'amour de jeunesse.
J'ai détesté.
Bon, bah voilà, je crois qu'on a fait le tour. On se retrouve d'ici un mois pour un podcast bilan 2015 en termes de cinéma asiatique
14.
Et autres. Et attente 2015 et
retour
bilan 2014. Et on pourra parler de pas mal de choses. Et d'ici là, portez-vous bien. See you, Space Cowboys.
Ciao.
Salut.
Bye.
Salut.
MC Mikey. MC Ricky Ricky. Boom, 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 boom